Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Si le nord du Mali était la principale préoccupation de la situation sécuritaire, aujourd'hui le centre aussi inquiète. Les régions de Mopti et de Ségou ont déjà fait entre 100 et 200 victimes civiles et militaires selon certaines sources. Comment expliquer ce déplacement de l'insécurité dans le centre du pays? Doit-on plus parler de terrorisme ou de conflit entre les communautés? Comment faire en sorte que la paix et le vivre ensemble reviennent? Nous répondrons dans ce grand dialogue à ces quelques questions et à d'autres avec nos invités qui sont Adam Cham, il est journaliste, également auteur d'un livre « Centre du Mali, enjeux et dangers d'une crise négligée », je vous le conseille. Ibrahim Maïga de l'ISS Dakar, l'ISS l'Institut d'études de sécurité. Ali Tunkara, sociologue, sera en ligne, il intervient depuis Mopti. Baba Dakono est également avec nous dans ce studio. Baba Dakono est analyste et chercheur. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Sedumbo.
Le Grand Dialogue.
De 2012 à maintenant, nombre de Maliens ont perdu la vie dans le nord et le centre du Mali. Plus de 400 écoles sont fermées dans ces zones dues à l'insécurité. Le centre du pays devient de plus en plus insaisissable. Il y a quelques jours, un rapport de Human Rights Watch parlait de cette situation sécuritaire dans le centre du pays. Écoutons cette analyse de Idrissa Sako.
Selon Human Rights Watch, dans le centre du Mali, des affrontements souvent aggravés par des tensions ethniques ont fait au moins 52 personnes tuées et plus de 10 000 déplacées. Ces attaques, poursuit l'ONG, sont perpétrées par des groupes armés islamistes, des milices d'autodéfense, mais aussi par des militaires maliens. Ce nouveau rapport révèle que depuis 2 ans, des groupes armés islamistes renforcent leur présence dans le centre du Mali. Le document indique qu'ils ont exécuté des civils, des fonctionnaires du gouvernement et commis d'autres exactions. Human Rights Watch déclare que ces groupes armés profitent des tensions entre les ethnies Peul, Bambara et Dogon pour recruter des résidents locaux, ce qui entraîne une prolifération des milices d'autodéfense aux pratiques souvent violentes. Ainsi, pour Human Rights Watch, le gouvernement devrait redoubler d'efforts pour enrayer ces violences. L'ONG recommande que les auteurs des meurtres soient traduits en justice et souhaite la multiplication des patrouilles pour protéger les populations vulnérables.
Merci Idrissa Sako. Alors Adam Cham, merci d'être avec nous pour cette émission. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que le centre du pays, qui a été quand même moins ou différemment touché par la crise de 2012, soit en proie à cette insécurité aujourd'hui? Je rappelle que vous êtes auteur de ce manuscrit « Centre du Mali, enjeux et dangers d'une crise négligée ».
Merci Touré, et puis j'en profite pour saluer mes deux cadets, Dakono et Maïga. Alors pourquoi le centre est devenu un enjeu aujourd'hui? Je crois que c'est très simple. L'expression que j'utilise, c'est que le centre est devenu la région bélier en Sardine. Tout est parti de la crise du Nord. Amadou Koufa, vous vous rappelez, celui dont on parle aujourd'hui, a rejoint en Sardine en juin 2012 à Tombouctou. Il a participé ensuite à la rencontre du 7 décembre 2012 de Essakan, qui a planifié l'attaque de Kona. Quand il est venu à Kona en Sardine, c'était pour être l'émir de la ville et peut-être plus tard de la région. Et pourquoi en Sardine a instrumentalisé la région de Mopti à Amadou Koufa? Souvenons-nous que quand Droukdel, le chef de ACMI, a évalué la présence de ACMI au nord, ce qu'il a dit, c'est que peut-être qu'on a commis une erreur. Avant de commencer par les amputations, la charia, les sentences rigoristes, il fallait peut-être pénétrer les sociétés. Et il a pensé qu'il fallait créer effectivement une espèce de katiba presque ethnique. C'est d'ailleurs comme ça que le Moujao s'est répandu, et le Moujao, en se répandant, a recruté des Peuls, et beaucoup de ces Peuls sont partis plus tard, après la libération du pays en 2013, avec Amadou Koufa. Mais le gros des troupes peut-être vient des frustrations que les populations ont vécues suite déjà aux exactions mentionnées par Human Rights Watch donc les exactions de l'armée, par des frustrations d'ordre divers telles que les comportements de l'administration, parce que n'oublions pas que dans le pays, qu'il s'agisse de Kaï, Sikasso, Kidal, Gao, l'administration s'est comportée comme une administration d'occupation.
Merci Adam Cham. Ali Tunkara est en ligne. Ali Tunkara est sociologue. Il intervient depuis la région de Mopti. Bonsoir Ali.
Bonsoir.
Alors Adam Cham a tantôt parlé des exactions commises sur les Peuls. Est-ce que les Peuls sont les seules victimes justement dans ces régions du centre?
Oh, ils ne sont pas les seuls, mais oui, déjà leur nombre. Donc n'oublions pas qu'ils sont quand même majoritaires dans la région de Mopti. Ce qui expliquerait le pourquoi ils seraient le plus concerné par l'extrémisme violent. Mais il faut rapidement ajouter quand même que, comme vous l'avez si bien dit, hein, Abu Walid al-Sahraoui, le document qu'on a récupéré à la suite de l'intervention des forces françaises, dans lequel document il est clairement mentionné qu'il faut justement donner une dimension ethnique à l'extrémisme violent. C'est juste un habillage, avec le recours aux référents religieux, n'est qu'un habillage. En fait, dans la région Mopti, ce qui apparaît clairement, ce sont ces tensions intra-interethniques, ces clichés dans lesquels les différentes communautés s'inscrivent. Les Bambara vont accuser les Peuls également, les Tours vont accuser les Bambara, et notamment toutes ces questions liées à la gestion des ressources naturelles, et même à la chefferie traditionnelle. Ouais, donc c'est entre autres, tous ces problèmes qui se sont greffés avec le référent religieux. Mais quand on creuse à fond, on se rend compte que le référent religieux, il est un facteur marginal. Mais fondamentalement, ce qui fait que les Peuls, bon, je comprends, je ne l'estime pas, que les Peuls disent qu'ils sont le plus concernés par l'extrémisme violent dans les centres.
Et notamment justement, une question qui mérite d'être posée, est-ce que les Peuls sont les seuls concernés par l'extrémisme violent aujourd'hui dans le centre du pays?
Et ils ne sont pas le seul, mais si vous regardez un peu l'historique de l'extrémisme violent dans le centre du Mali, les Peuls étaient les acteurs majoritairement enrôlés par les différents mouvements, notamment avec la naissance du Front de Libération de Massina. C'est d'où le référent ethnique dans ces conflits. Et ce qui fait que tout Peul apparaît aux yeux de nos forces de sécurité comme un extrémiste potentiel. C'est d'où aussi l'amalgame d'ailleurs, parce que reconnaissons quand même que ce sont les Peuls qui ont majoritairement porté le projet de l'extrémisme violent. Voilà. Mais cela ne légitime pas l'amalgame, mais en tout cas, ça nous aide à comprendre le pourquoi les gens tombent dans l'amalgame.
Merci Ali Tunkara. Baba Dakono est avec nous, il est analyste, chercheur. Baba Dakono, comment expliquer en somme, est-ce que tout ce qui a été dit sur ce plateau jusqu'ici explique ces conflits entre les communautés aujourd'hui qui vivaient ensemble depuis des siècles?
Oui, je pense que tout ce qui a été dit ici l'explique en partie. Ce que je peux faire, c'est ajouter deux ou trois éléments et aller peut-être dans la spécificité par rapport à la région de Mopti. C'est vrai, tout ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, on manipule les griefs des communautés contre d'abord l'État du Mali, mais contre tout ce qui est symbole ou représentant de l'État du Mali. Ça, c'est vrai pour une partie de la problématique sécuritaire dans le centre du Mali avec la question de l'extrémisme violent. Il y a également le phénomène de conflits historiques qui existent et qui ont été exacerbés par la montée en puissance de certaines communautés envers l'autre. Ça, je parle de relations intracommunautaires. Par exemple, on sait que dans la région de Mopti, principalement dans le cercle de Douenza, il y a de façon historique, il y a deux familles Peuls qui se disputent la chefferie pendant de très... Ça, c'est historique, c'est une relation conflictuelle historique qui aujourd'hui connaît de nouvelles manifestations parce qu'il y a comme un sentiment ou une volonté de renversement de l'ordre social qui existait d'une communauté, d'une famille
au profit de l'autre. Cette querelle intestine est également exploitée par des groupes armés terroristes qui ont donné une certaine forme de puissance militaire à une famille par rapport à l'autre. Mais je voudrais quand même, juste pour terminer sur ce point, rappeler que si c'est l'ethnie Peul qui est le plus visible dans ce conflit, c'est en plus du fait que majoritairement, d'un point de vue numérique, ils sont très importants dans cette localité, mais il faut quand même rappeler dans l'histoire du pays, je remonte peut-être à des années, c'est que la culture même de la Dawa se faisait par ces communautés Peul. Et la pénétration de l'islam, je parle sous le contrôle des historiens ici, a été beaucoup effectuée dans cette localité par la communauté Peul. Donc il est normal qu'elle soit la plus visible sur cette question.
Merci. Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité. Alors, quand on regarde un peu dans la zone, il y a une prolifération également du banditisme classique et de narcotrafiquants. Est-ce qu'il faut imputer aujourd'hui toutes ces attaques-là ou un peu tout ce qui se passe dans ces zones-là aux extrémistes religieux?
Alors, c'est toute la difficulté effectivement de situer et de dire avec précision surtout quelle attaque attribuée au groupe qualifié de djihadiste ou quelle attaque aurait été commise par des groupes de bandits. C'est très compliqué, très difficile à documenter. Mais j'aimerais quand même revenir sur deux éléments. Le premier, je pense que après tout ce qui a été dit ici, qu'il est important de s'interroger sur les causes ou en tout cas les motivations pour lesquelles des individus s'engagent ou s'enrôlent dans ces groupes-là. Il est extrêmement important de
Je rappelle que l'ISS a produit d'ailleurs un rapport il y a quelques mois sur certaines des causes justement de l'extrémisme religieux galopante.
Oui, tout à fait, mais je disais ça surtout pas pour faire de la publicité au rapport que nous avons publié, mais surtout pour pointer du doigt la responsabilité très grande des pouvoirs publics et de l'État en particulier, parce que on parle beaucoup de la situation dans le centre du pays, dans les régions de Mopti et de Ségou. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas de conflit du tout. Il n'y avait pas de tension entre les communautés. Moi, je préfère qualifier de communautés professionnelles, parce qu'au-delà du fait qu'on soit Peul ou Bambara, il y a des métiers, il y a des professions qu'on exerce et qui nous collent un peu à la peau. Et qui font qu'il y a des tensions souvent entre les agriculteurs, les éleveurs, entre les pêcheurs et les éleveurs, ainsi de suite. Donc vous retrouvez beaucoup de conflits qui sont en apparence des conflits inter ou intracommunautaires, mais quand vous creusez davantage, vous vous rendez compte que c'est des conflits entre communautés professionnelles. Je pense qu'il est extrêmement important de le dire pour ne pas tomber dans la stigmatisation, dans la victimisation de l'ethnie Peul dans le centre du pays.
Merci beaucoup. Adam Thiam, on a vu, Ansarul Islam du Burkinabé, Ibrahim Malam Diko, serait connecté apparemment au Front de Libération du Massina. Est-ce que justement ce mode de collaboration est en train de proliférer justement dans le centre du pays? Quand on voit également Nostra al-Islam al-Muslimin aujourd'hui, duquel d'ailleurs fait partie Amadou Koufa.
Donc sur les appellations, moi je crois que ce qui existe, c'est le Katiba Massina. Pas le Front de Libération du Massina. Katiba Massina existe. Iyad lui-même utilise cette appellation. Et Amadou Koufa aussi, après avoir revendiqué un certain nombre d'attaques, c'est l'appellation qu'il a choisie. S'appelle Katiba Massina. Maintenant, est-ce que Katiba Massina a des liens organiques avec Ansarul Islam de Malam? C'est ce qu'on avait pensé à l'époque, mais la dernière réaction de Malam indique que il n'est pas du tout d'accord avec la création du nouveau mouvement, donc
Nostra al-Islam
entre Iyad Al-Murabitoun et Katiba Massina. Et d'ailleurs certains pensent que Malam n'est pas d'accord avec ça parce que il a plus d'affinité avec l'État islamique, donc Abu Walid, et que ce qui est en train de se passer dans ce Liptako-Gouma, dans cet espace, c'est une lente infiltration, pénétration de l'État islamique à partir de la frontière Mali-Niger. Pour revenir sur la question de la présence Peul, je crois, oui, il n'y a pas de doute que les premières unités étaient des peuls. Mais on sait que depuis, il y a aussi des katibas Dogon. Par exemple, vers Diongani, le katiba de Mahmoud Bari, il y a deux, ou il y a au moins deux katibas Dogon connus. On sait qu'il y a des Bella, des Arabes, des Bozo. Il y a un peu tout le monde. Maintenant, est-ce que le mouvement est un mouvement peul? Je crois que c'est dû au fait qu'Amadou Koufa lui-même est peul, même si ce n'est pas un peul de la région de la région de Mopti. Et Dakono l'a dit, si tu vas un peu vers Douanza, il y a des querelles de préséance sociale qui ne sont pas... qui ne sont pas forcément pour répandre le djihadisme, mais je crois que c'est la présence des groupes rebelles qui a permis effectivement à ces querelles de reprendre. Par exemple, certaines des familles étaient avec le MNLA, d'autres avec le Moujawa. La libération du Mali, chaque groupe a pensé qu'il était suffisamment armé pour s'imposer à l'autre. Donc mais c'est le propre de l'action djihadiste. S'il y a des conflits fonciers dans la région de Mopti qui reprennent, s'il y a des conflits intercommunautaires, etc., oui, ils existaient bien sûr, mais le propre de la doctrine des djihadistes, c'est de créer le maximum de désordre pour que l'État ne soit pas là. Et c'est même ça le plus grand risque de la région de Mopti. Ça n'est pas les djihadistes peuls, ça n'est pas les identitaires, ce ne sont pas les braqueurs de route, c'est la résurgence des conflits fonciers, des conflits intercommunautaires, parce que la région est une véritable poudrière.
Merci, nous reviendrons après quelques secondes de pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de suivre le grand dialogue du studio Tamani. Le centre du pays devient-il incontrôlable? Le grand dialogue en parle avec Adam Tcham, les journalistes Ibrahim Maïga de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité, Ali Tunkara, sociologue, et Baba Dakono, chercheur. Nous avons une question sur notre répondeur du studio Tamani. Elle vient de Mahaman Sissé. On l'écoute.
Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, les devoirs s'élèvent pour demander à négocier Amadou Koufa, et est-ce que cela pourrait être une solution pour peut-être calmer la situation? Merci.
Alors, Baba Dakono, on l'a vu, parmi les recommandations de la conférence d'entente nationale, il a été demandé de se rapprocher de Yada Gali, également de Amadou Koufa. Alors, est-ce que cela est censé déjà?
Je pense que ce qui a été dit il y a fort longtemps, c'est que ces acteurs ne doivent pas être ignorés du processus. Je crois que dans les précédentes analyses, il était surtout question de quel est le traitement qu'on réserve à, surtout principalement, Iyad Agali. Parce qu'aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que Iyad est ignoré. D'abord, il n'est pas pris en compte dans le processus de paix. La question de...
Mais justement, la question d'agenda, comment le prendre en compte? Quelles sont les valeurs qu'on va justement négocier avec quelqu'un comme Iyad Agali ou Amadou Koufa?
Je pense que des discussions ont eu lieu déjà sur cette question. Je crois que sur ce même plateau, j'ai eu l'occasion de rappeler que déjà en 2013, il était question de discuter avec Iyad Agali jusqu'au 10 janvier 2013. C'est à partir de la descente de certains groupes armés terroristes à Conan que cette option a été abandonnée. Donc le fait d'envisager de discuter avec Iyad Agali n'est pas tout à fait nouveau. Ça existait déjà, que ce soit au niveau des autorités de la transition malienne de l'époque ou au niveau de la communauté internationale. Donc, si on a eu le courage de penser qu'on pouvait discuter avec Iyad Agali en 2013 et qu'après on a oublié cette option, le même courage, on doit pouvoir l'avoir aujourd'hui encore et sur les mêmes bases. Mais maintenant, qu'on ne discute pas avec lui, mais qu'on trouve la solution, si la solution elle est militaire, mais qu'on ne fasse pas comme si Iyad aujourd'hui n'existe pas d'un point de vue militaire.
Est-ce qu'on a les capacités militaires d'en découdre avec l'un ou l'autre?
Si on n'a pas les capacités, si on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Si on n'a pas la capacité militaire d'arrêter la force de nuisance d'Agali, qu'on négocie donc avec lui. Et si on a la capacité de faire autre que la négociation, qu'on le fasse. D'ailleurs, je pense qu'en 2014, un peu avant 2015, il a été longtemps soutenu que Iyad Agali ou un de ses proches, donc Iyad l'aurait autorisé à activement participer à la libération de certains otages. Donc ça veut dire que Iyad n'a jamais été exclu tout à fait d'un processus de dialogue parallèle. Donc que ça soit officiel avec les moyens qu'on aboutisse à quelque chose, ou si on a les moyens d'un traitement militaire, qu'on le fasse.
Merci. Ali Tunkara, vous intervenez depuis la région de Mopti, vous êtes sociologue. Quelle est l'influence réelle du prédicateur Amadou Nkoufa quand on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres Katibas qui existent, qui ont aussi leurs influences sur le terrain? Est-ce qu'on ne le surestime pas un peu, Amadou Nkoufa?
Non, je crois qu'il n'y a pas de surestimation quant à son influence dans la région. Amadou Nkoufa, je le disais dans mon propos introductif, il n'est pas originaire de la région, mais en tout cas, il a longuement quand même vécu dans la région. Ce qui lui a conféré une certaine notoriété dans les différentes mosquées. N'oublions pas aussi quand même Amadou Nkoufa, il maîtrise tout à fait poussée des textes religieux. Il parle très bien la langue peule. Surtout, son influence aussi trouve toute sa légitimité dans le fait qu'il décrit les situations qui posent problème aux populations de la région, notamment ces questions liées aux grèves judiciaires, le comportement non orthodoxe des forces de sécurité, une justice à géométrie variable. Donc ce sont ces questions, entre autres, qui font que Amadou Nkoufa a vraiment de l'aura dans la région. Parce que quand vous échangez avec les différentes populations, elles vous diront qu'avec Amadou Nkoufa, bon, elles espèrent à une justice équitable avec Amadou Nkoufa. Elles espèrent justement à une, si vous voulez, à un accès aux ressources naturelles, notamment au pâturage, de façon légale entre tous les citoyens. Ça a été rappelé. Vous avez dans cette localité certaines chefferies qui ont le monopole de la gestion des ressources naturelles. Ouais, donc toutes ces tâches ont été récupérées par Amadou Nkoufa, toutes ces frustrations ont été récupérées par Amadou Nkoufa et en faire justement une doléance religieuse. Mais au bout du tunnel, lorsqu'on creuse, on se rend compte que c'est la somme de ces frustrations qui expliquerait la légitimité qu'Amadou Nkoufa a dans la région.
Merci Ali Tunkara. Alors Ibrahim Maïga de l'ISS Dakar, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un redéploiement de l'administration ou de l'armée d'ailleurs dans ces zones-là, que l'armée et l'administration ne soient pas déployées à Kidal? D'accord, on comprend, mais dans le centre Ségou et à Mopti, que les écoles ne fonctionnent pas, est-ce que ceci est compréhensible qu'il n'y ait pas une base justement de notre administration ou de l'armée malienne?
Peut-être avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur ce que M. Tunkara vient de dire. Je trouve que c'est assez illustratif quand même de l'importance et de la nécessité de traiter en profondeur les causes et non les conséquences, de ne pas s'apesantir trop sur les conséquences. Et ça remet encore une fois de plus, ça relativise, je trouve, la solution militaire. Parce que tous les éléments dont il vient de parler, injustice, gestion des ressources naturelles, sont des questions avant tout politiques et non d'ordre militaire. Je ne suis pas sûr que l'armée soit en mesure de les régler. Donc si on veut durablement régler cette crise, il faut qu'on ait un traitement politique en marge de la solution militaire.
Est-ce que si on avait un déploiement effectif justement des forces armées dans le centre du pays, notamment, on aurait eu toutes ces bruits entre les différentes communautés et toute cette prolifération justement de groupes djihadistes?
Alors l'armée n'a pas vocation à faire le rôle de l'administration publique. Vous parlez effectivement du rôle de sécurisation qui est sa fonction essentielle, mais au-delà de ça, les gens s'attendent quand même à un certain nombre de services publics, à avoir une administration qui fonctionne, à avoir des services de santé, à avoir une éducation. Donc le fait d'envoyer que des militaires peut être contre-productif. Et c'est pour cela que je disais dans mon propos qu'il est important, en marge de la solution militaire que tout le monde préconise, notamment parce qu'on n'a pas, à court terme, c'est probablement une des pistes à explorer. Parce que quand vous avez des gens qui sont armés, qui sont devant vous, vous n'avez d'autre choix que de riposter par la force militaire. Mais cela ne doit pas être la seule réponse que l'État ou les partenaires du Mali apportent. C'est ce que je disais. Et peut-être pour revenir à ce que M. Thiam disait tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi une question liée au fait que Amadou Koufa, c'est un peu, j'imagine qu'il s'exprime essentiellement un peu, et donc son public est d'abord peu avant d'essayer d'enrouler les autres ethnies du Mali. Et je pense qu'il a insisté sur le fait que effectivement il y a une stratégie derrière d'autochtonisation d'Acmi au Mali, cette volonté de passer par les communautés et d'exploiter, comme M. Dakounou le disait à l'instant, les griefs des communautés pour pouvoir s'agrandir et délégitimer encore plus l'État. L'État n'était déjà pas, parce qu'aujourd'hui on réclame presque tout le monde réclame le retour de l'État, le retour de l'administration dans ces parties. Mais n'oublions tout de même pas que l'État, avant la crise de 2012, n'était pas irréprochable. Et effectivement, il faut un retour de l'État, mais il faut un retour de l'État, d'un État avec de nouvelles pratiques, j'ai envie de dire. Et peut-être pour... je ne sais pas si la question m'a été directement posée, mais j'aimerais quand même réagir à la possibilité de dialoguer ou pas avec Yada Gali. Alors pour dialoguer, il faut être deux. On ne peut pas dialoguer tout seul. Et donc la question que je me pose, est-ce que Yada Gali est dans les prédispositions en fait de dialogue pour amorcer un dialogue avec l'État malien. L'État qui est lui-même dans des contradictions, parce que le ministre de la Réconciliation, pour ne pas le citer, juste après la conférence d'entente nationale, a déclaré sur une antenne internationale que l'État du Mali était prêt à dialoguer avec tous ses fils, y compris ceux qui ont pris la voie, on va dire, djihadiste, l'option djihadiste. Et plus tard, quelques jours après, on a eu une autre déclaration du ministre de la Défense qui a évoqué l'absurdité d'une telle option, parce qu'il estime qu'il n'est pas possible de dialoguer avec Iyad. Mais je crois que la question fondamentale qui se pose, est-ce que Iyad aujourd'hui est dans des prédispositions pour dialoguer? Il y a certains qui le croient, certains disent que l'option djihadiste est finalement pour lui la dernière option politique pour se faire une place.
On a vu ces fameuses lettres d'échange avec Mahamoud Diko, finalement démenties par Iyad lui-même.
Démenties par Iyad lui-même. Et après, je dirais ce qui contrecarrie un peu les plans de ceux qui souhaitent dialoguer avec lui, c'est que Iyad aujourd'hui est engagé dans une alliance quand même. Et donc, je pense que ça refroidit pas mal les ardeurs de ceux qui propose un dialogue avec Iyad.
Merci.
Sans me prononcer sur la validité d'un dialogue avec
Adam Thiam.
Voilà, mais sur cette question de négocier avec Iyad et Amadou Koufa qui intéresse tout le monde, c'était une recommandation de la conférence d'entente nationale. Mais ce n'est pas la première tentative. Je pense que même les Algériens ont tenté de négocier avec lui. Et je pense que c'est aussi, une ambition de l'Algérie de continuer à négocier avec Iyad, parce que l'Algérie n'aimerait pas que Iyad soit tué comme ça. Elle ne l'aime pas simplement parce qu'elle n'est pas étrangère à la création de Ansardine. Elle a créé Ansardine parce que les Français ont créé le MNLA. Donc on ne voit pas pourquoi c'est un ministre français qui vient nous faire la leçon ici après avoir créé le MNLA. Donc la première troupe, d'où est partie effectivement la déstabilisation de tout le nord du Mali.
Et ensuite, et parallèlement au centre d'ailleurs.
Voilà. Et ensuite, l'Algérie a quand même tenté de négocier avec les djihadistes et ça n'a pas mal marché. Donc Hassan Hattab était nettement plus dangereux que Iyad Agali, mais aujourd'hui il vit en Algérie parce qu'il a accepté de rendre les armes et on lui a donné une amnistie. Et beaucoup de djihadistes, d'anciens combattants de maquis, enfin de salafistes algériens sont dans cette situation. Et la Mauritanie aussi avait essayé. Donc est-ce que c'est possible de négocier avec les djihadistes? Ça peut porter fruit? Oui, puisqu'on a l'exemple de la Mauritanie et l'exemple de l'Algérie. Maintenant, est-ce que Iyad va accepter de négocier? Oui, ça dépend de ce qui lui est proposé. IAD ne peut pas faire de demi-négociation et vivre au nord du Mali. C'est Acmi qui le tuerait d'abord. Et même si on lui fait de grandes concessions, il ne peut plus vivre au sud parce qu'il a quand même les mains tachées de trop de sang, de sang de soldats maliens, etc., pour qu'il puisse être accepté. Donc, il faut savoir où il va vivre et comment. Donc, si c'est fait, ça peut marcher.
On entre dans les négociations.
Mais tant que tu négocies, on n'a pas négocié avec IAD. On ne pourra pas négocier avec Amadou Koufa, parce qu'Amadou Koufa est son fondé de pouvoir. Maintenant, ce qu'il est possible de faire avec les deux et contre les deux, c'est de fermer autant que possible les vannes du recrutement. Et les vannes du recrutement, oui, l'armée a un grand rôle à jouer. Il suffit simplement d'éviter de former des frustrations avec la stigmatisation. L'administration a un grand rôle à jouer. Il faut simplement qu'elle soit une administration acceptée par les populations. Et puis, il y a les mesures d'amnistie qu'on peut apporter aux petits groupes djihadistes qui ne sont pas des grands pontes comme IAD ou Amadou Koufa.
Vous pensez que ça devrait être un des rôles de la commission justice, vérité et réconciliation?
Je ne sais pas, mais je pense que c'est un rôle que l'État malien doit jouer. Je pense que ce rôle doit être surtout joué par des acteurs régionaux et sortir du tête-à-tête entre les groupes qui ne représentent qu'eux-mêmes et Bamako. Et l'intérieur de la région, parce que il y a des autorités morales acceptées, des autorités morales crédibles dans la région qui peuvent faire cela. On n'est pas obligé de passer par les éternels négociateurs de Bamako.
Merci Adam Diam.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le centre du Mali devient-il incontrôlable? C'est le thème du grand dialogue de cet après-midi. Nous allons éventuellement parler des solutions. Adam Thiam était sur une lancée. Nous continuons avec lui. Une question que vous n'allez peut-être pas trop aimer. Faut-il déployer les forces des Nations Unies dans ce fameux centre, hein, comme certaines voix l'ont dit, pour essayer de stabiliser cette zone-là déjà?
Alors, non, mais je vais parler brièvement parce que j'ai parlé 10h29 minutes et c'est largement plus que tous les autres. Mais franchement, ils ont dit, hein, oui, il faut une présence militaire, mais c'est pas la seule solution militaire qui va régler le problème et le problème du centre. N'oublions pas que la région de Mopti a connu deux expériences djihadistes en 1818. Avec Cheikh Amadou, et en 1860 avec El Hadj Omar, et avant ça, il a vécu effectivement un peu les retombées de l'Empire Songhai. Et donc, c'est dans la culture locale. L'islam est dans la culture locale, même si ce n'est pas un islam rigoriste. Donc, il faut faire très attention, parce que la région, économiquement, est une région qui s'est effondrée en 40 ans. Tant que il n'y a pas de relance économique, tant qu'on ne relance pas la production, tant qu'on ne relance pas la consommation, tant qu'on ne voit pas ce qui se passe en termes d'opportunités pour la formidable cuvée d'élèves sortant des écoles coraniques, la région va rester un terreau pour la déstabilisation du pays. Et la déstabilisation du pays aujourd'hui, c'est très facile, c'est un peu simplement utiliser l'islam parce qu'il y a un islam politique, même pas au nord mais au sud et dans la capitale, plus autrement plus dangereux à mon avis que les activités djihadistes aujourd'hui qu'on remarque dans la région de Mopti ou au nord du Mali.
Merci Baba Dakono, vous êtes chercheur analyste. On a vu que la conférence internationale n'a fait que des recommandations, en parlant du centre d'ailleurs, c'était l'une des revendications de l'opposition. Comment accélérer aujourd'hui la mise en œuvre de l'accord de paix? Est-ce que la mise en œuvre effective de cet accord de paix va calmer un peu les tensions dans le centre du pays également, quand on voit aussi qu'il y a des milices Donsou et des milices Peul qui se créent?
Vous l'avez dit vous-même, ces milices Donso et ces milices Peul ne sont pas prises en compte par l'accord issu du processus d'Alger. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur ce que M. Meïga disait tout à l'heure, qui est tout aussi important que tout ce qu'on vient de dire. C'est aujourd'hui la problématique de la présence ou de l'absence de l'État. Parce que quand on discute avec ces communautés établies dans le centre du Mali, dans les périphéries de la région de Mopti, c'est que pour certaines personnes, ce n'est pas l'absence de l'État qui est problématique pour elles, c'est surtout la présence de l'État. Et je crois que le docteur Tunkara parlait tout à l'heure de la justice. Quelle justice était présente dans ces localités au cours des dernières années? Et quelle est la perception aujourd'hui de ces communautés sur la justice classique moderne rendue par l'État? Et je me rappelle, il y a eu une attaque à Mopti, à une dizaine de kilomètres de Sévaré, et l'attaque serait partie du fait qu'un garde forestier a saisi la production, le produit d'un exploitant et l'aurait demandé 400 000 francs. Donc, en représailles, le type est revenu pour assassiner ce garde forestier qui n'a même pas trouvé sur place, mais pour lui, tous les gardes forestiers, les gendarmes se valent aujourd'hui. Donc, voilà le type de conflit qu'oppose aujourd'hui l'État aux communautés, à ces communautés qui sont établies. Donc, c'est vrai qu'on parle de retour de l'administration, mais quel retour? Je crois, M. Meïga le disait tout à l'heure. Donc, il est important qu'on réfléchisse encore sur le mode de gouvernance, sur comment l'État du Mali distribue ses services publics et rend la justice au niveau de ces communautés.
Merci. Ali Tunkara, vous intervenez depuis Mopti. Est-ce qu'il faudrait, comme Baba Dakono l'a dit, prendre en compte ces milices qui se créent aujourd'hui, les milices Donso et les milices Peul, dans le processus de paix en cours?
Honnêtement, ces milices sont vraiment inquiétantes. Mais c'est extrêmement important pour que ces milices se créent, parce que les populations se sont senties abandonnées par l'État. Pourquoi elles se sentent abandonnées par l'État? Ça fait bien rappeler. En réalité, si vous prenez dans tout Ténénkou, que ce soit à Sosobé, que ce soit à Dogo, que ce soit à Dialobé, ce qui ressort clairement dans les différents entretiens, les populations vous diront que, franchement, tous les juges qui viennent chez elles, ils n'ont pour finalité que de s'enrichir. Donc finalement, ils ont intérêt, ces acteurs de ces différentes localités, de s'organiser un groupe d'autodéfense afin d'assurer ces fonctions régaliennes dont l'État est censé justement les remplir comme fonction vitale. Mais franchement, l'État est très mal perçu par ces différentes communautés. Par le simple fait que ces agents qui sont la douane, qui sont la garde nationale, la gendarmerie, la police, y compris même les militaires, ne font que spolier les populations. Donc finalement, ce n'est plus la présence, ce n'est plus l'absence de l'État, mais plutôt la perception que ces populations ont de l'État. Ce sont ces perceptions qu'il faut nettement le revoir. C'est extrêmement important. Pour ce faire, je crois qu'il faut impérativement passer par l'établissement d'une justice équitable, par la prise en compte de l'ingénierie locale. C'est vrai que nous avons, on parle toujours de la porosité des frontières, mais il y a une porosité aussi quand même des mentalités dans le contexte malien. Toutes les idées nous viennent d'ailleurs, même négocier ou pas négocier avec Yadagali. Bon, les inquiétudes qui se font entendre, ce sont des inquiétudes qui viennent d'ailleurs, en fait, on les fait. Donc il faudra que nous, malins, que nous acceptons et d'émerger des solutions qui sont compatibles avec les logiques du terroir. Il est extrêmement important, dans nos pays au monde, sommes-nous parvenus à mettre un terme à l'extrémisme sans véritablement dialoguer avec les vrais acteurs. Les vrais acteurs aujourd'hui dans le centre du Mali sont les Amadou Koufa, les Yéda Agali. Ce ne sont pas ces messieurs, ces dames-là qui ont participé à la conférence internationale. Donc, comment peut-on arriver à des solutions durables en mettant les vrais acteurs à la touche? Je crois qu'il est vraiment important qu'on émerge des solutions à partir du local.
Monsieur Maïga, qu'est-ce que vous pensez justement de dire du docteur Tunkara? On a vu d'ailleurs, au-delà, quel est le rôle justement des religieux de Bamako, puisqu'on a vu que le Haut Conseil islamique a fait une sortie d'ailleurs pour parler de mauvaise gestion des conflits antérieurs, étant une des sources de conflits dans ces régions.
Vous me posez là une colle parce que le rôle des leaders religieux dans la résolution de la crise ou des crises au Mali.
Particulièrement dans le centre aujourd'hui, quand on voit qu'il y a cette vague de radicalisation dont le centre est proie.
Alors, il faut d'abord s'interroger peut-être sur le... Est-ce que ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le centre du Mali est le fait uniquement d'un extrémisme lié à la religion? Je ne le crois pas. Si tel est le cas, effectivement, les leaders religieux auraient un rôle très important à jouer. Quoique même dans le contexte actuel, ils ont encore un rôle à jouer parce que ce sont des autorités, on va dire, écoutées, des autorités crédibles. Personne ne me contredira sur le manque de crédibilité des autorités administratives ou des autorités politiques dans certaines localités du Mali. Donc effectivement, de fait, ils ont une influence, de fait, ils ont un rôle important à jouer dans la résolution de la crise, et leur prise en compte est importante, et je pense que c'est le cas en ce moment, parce que lors de la conférence d'entente nationale, ils ont été conviés, le président du HCI a fait partie de la présidence du bureau d'organisation de la conférence d'entente nationale, donc ils sont partie prenante du processus. Je ne sais pas si l'implication est à la hauteur de leur influence et de leur rôle dans la société malienne, ça je ne saurais vous le dire. Maintenant, peut-être pour revenir à deux éléments qui ont été évoqués, bon, l'AMUNUSMA. Est-ce que l'AMUNUSMA devrait être déployé dans le centre du pays? Je pense quand même que c'est une question qui mérite beaucoup d'interrogations, parce que quand vous voyez l'état ou le résultat auquel est arrivé l'AMUNUSMA dans le nord du pays, je pense qu'il y a lieu de s'interroger sur la valeur ajoutée de l'AMUNUSMA dans le centre du Mali, sur sa capacité et sur les moyens dont dispose l'AMUNUSMA pour ne serait-ce juguler un peu la situation sécuritaire dans cette partie du Mali. Donc je pense qu'à l'aune des moyens dont dispose l'AMUNUSMA, je ne suis pas sûr qu'un renforcement de l'AMUNUSMA améliorera la situation sécuritaire dans le centre du pays. Après, vous avez évoqué effectivement le lien entre la crise au nord du Mali et la situation dans le centre du Mali et l'importance de la mise en œuvre de l'accord de paix pour permettre peut-être d'avoir en moins quelques problèmes. Je pense qu'il est extrêmement important et ça alimente de fait le problème dans le centre du pays, sans revenir sur les trafics en tout genre et notamment la disponibilité justement des armes qui a tourner certains conflits ou certaines tensions en des conflits très violents, parce qu'il y a une disponibilité sur le marché des armes. On peut se procurer une Kalachnikov à 70 000, à 75 000, moins de 100 000 francs CFA, et il est extrêmement facile de recourir à la violence aujourd'hui dans le centre du pays. Donc une façon de juguler la situation et de régler la situation dans le centre du pays est liée probablement à une amélioration ou en tout cas une application du processus, enfin de l'accord pour la paix et la réconciliation. Quoique l'idée qui est en ce moment qui sur toutes les lèvres et qui consiste à vouloir introduire la question du centre dans le processus de paix, un processus de paix assez poussif, je ne sais pas si c'est la solution la plus judicieuse. Il me semble qu'il faut inventer, et M. Tunkara le disait tout à l'heure, des solutions un peu à la malienne, j'ai envie de le dire, mais je pense qu'il faut être créatif dans le type de solution qu'on essaye d'apporter.
Merci M. Maïga. Adam Tcham, est-ce que justement créer une espèce de moque propre au centre avec les forces armées maliennes et toutes ces milices-là ensemble pour patrouiller dans ces zones-là pourrait être une solution pour calmer les acteurs?
Alors, je ne sais pas, il faut être un spécialiste. Si la configuration du terrain au centre n'est pas le même qu'au nord du Mali, les types d'insécurité ne sont pas les mêmes. Pour ce qui est de l'insécurité portée par les djihadistes, oui, je pense effectivement que, au vu de ce qu'il y a au nord, effectivement, il faut une MINUSMA qui est tiré toutes les leçons de la crise de sa présence au nord du Mali, qui peut être efficace au centre. Pour l'instant, ça ne me paraît pas être évident de se comporter comme on dit business as usual, comme ils le font sont au nord du Mali.
Mais ça vous paraît sensé qu'on puisse intégrer ces milices dans une espèce de force avec l'armée malienne pour patrouiller, par exemple, dans le centre? Les milices d'Onso, les milices Peul, ensemble.
Non, les milices, il faut les refuser. Il faut les refuser, quelles qu'elles soient. Maintenant, je ne crois pas que les forces djihadistes sont importantes au centre du Mali. Ce qui est important au centre du Mali, c'est la retraite de l'État et des forces de sécurité. Elles ne sont pas là, simplement. Et c'est leur retraite que comblent les djihadistes. Sinon, je ne pense pas effectivement que ce soit une force quantitativement importante. Nous sommes très très loin des proportions du Mali, de mars-avril 2012, quand le nord était annexé par les forces djihadistes.
Merci Adam Tia. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions ou contribuer au Grand Dialogue sur notre répondeur. C'est au 75-84-11-11 et au 75-84-12-12. Cette émission a été réalisé par Ibrahim Arandialo Sedumbo, était à la mise en onde. Salim Diouara a assuré la régie vidéo. Merci.
Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Haloud Mandi.
Chenne Beri. Siki Kafoba.